Et nous allons demander au pasteur célestin de bien vouloir nous recommander entre les mains de notre Dieu.
Oui, notre Dieu, merci pour cette journée pascale. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce grand jour de victoire, grand jour de fête. Toute l'humanité entière a eu la victoire sur le péché, sur le mal, sur la mort. Et nous avons la victoire à travers cet homme qui est ressuscité d'entre les morts et qui vit et qui gère son Église encore aujourd'hui. Pour nous tourner vers ta parole, Seigneur, nous avons besoin que tu nous assistes, que ton Saint-Esprit nous remplisse, nous équipe pour que nous puissions capter la portée de ta parole, Seigneur. Merci pour ton serviteur, pour la direction que tu lui donnes, pour la sagesse, pour nous conduire du début jusqu'à la fin. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Gère-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous nous recommandons à ta grâce. Amen.
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 Merci beaucoup, pasteur Célé, pour la prière. Merci, bien-aimé. Et nous demandons à notre frère Médard de bien vouloir nous lire le passage du jour qui est dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 15 à 28. Ézéchiel 37, 15 à 28. Ce passage vient avec deux questions. La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et la question 8, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu?
Oui, merci. Merci, Papa Gaston, pour la parole. Nous allons lire dans le second. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Réponds-leur, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se soueront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je les place et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Médard, pour la lecture. À tous ceux-là qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans les passages d'Ézéchiel 37, 15 à 28. La restauration entamée par notre Dieu continue. Hier, même les eaux desséchées qui avaient perdu toute espérance, qui se disaient à jamais perdues, à la parole de l'Éternel, le Créateur de toutes choses, ils ont recouvert la vie. Et dans notre passage d'aujourd'hui, d'Ézéchiel 37, 15 à 28, les deux royaumes qui étaient séparés, les royaumes du nord, Israël, et celui de Juda, sont mis ensemble, unifiés par l'Éternel, Dieu qui aime et désire sans cesse l'unité de tous ses enfants. Lui qui connaît, lui notre Dieu, il veut que tous ses enfants soient unis entre eux et à lui, le Créateur de toutes choses. Il connaît partout où sont ses enfants. Bien-aimés, en cette journée spéciale de la fête des Pâques, Jésus-Christ a accepté d'offrir, de nous offrir sa vie sans péché, toute sa vie à nous qui étions sans espoir, nous qui étions esclaves du diable et sans aucune espérance. Nous sommes devenus libres, Christ est devenu notre espérance. Nous qui étions errants avions aujourd'hui une cité céleste et Christ est devenu notre berger. Nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair et nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui s'élevait contre lui, il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé alors les dominations, les autorités et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et tout ceci pour que nous puissions demeurer unis à l'Éternel Dieu des armées et entre nous en tant qu'enfants du Père Céleste. Qu'il est merveilleux notre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, avant de donner la parole à l'Assemblée, je voudrais souhaiter joyeuse fête de Pâques à tous mes frères et à toutes mes sœurs et à tous membres du FIMES et à tous nos bien-aimés qui nous suivent à partir de la radio et à tous ceux-là qui nous suivront en différé. Bonne fête de Pâques.
Merci. Pareillement.
Nous accordons la parole maintenant à l'Assemblée. Nous avons deux minutes pour intervenir, dire ce que le Saint-Esprit a déposé en nous. Nous avons médité ce passage et nous voulons mettre en commun toutes les richesses que le Saint-Esprit a déposées en tout un chacun de nous. La parole est à l'Assemblée. Qui voudrait être le premier? Je cherche tout d'abord le pasteur José des États-Unis. Je ne l'ai pas vu. OK. Je vais commencer.
Je prends la voiture. Oh, you can stay. Oh, you.
Les versets, commence avec le verset 15. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Toi, fils de l'homme, verset 16, prends une pièce de bois et écris dessus Juda et écris aux fils d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus à Joseph, roi d'Éphraïm, et à toute la maison d'Israël. Bien-aimé, j'étais interpellé par ce passage de voir que les enfants sont allés. Dieu a un regard de tout ce qui se passe en chacun de nous. Et même lorsque nous sommes éloignés, tout ce qui se passe, même en cachette, Dieu le voit. Aujourd'hui, il dit « écris les noms ». C'est pour dire qu'il connaît tout un chacun de nous. Le nombre de milliards que nous sommes, Dieu connaît. Et lorsqu'il y a même une division au milieu de nous, Dieu voit cela. Mais son désir, c'est que tous ses enfants, nous soyons unis et nous soyons réconciliés à lui et à jamais. Merci. Je donne la parole au pasteur Célé ou à maman Christine.
Oui, merci à Frère Gaston pour la parole. Je suis au verset suivant, c'est-à-dire au verset 17. Et là, nous voyons Dieu qui devient un pédagogue avec le matériel didactique en disant au prophète, rapproche les deux bois, rapproche-les pour que tu n'aies qu'une seule pièce de bois en sorte qu'elle soit unie dans ta main. C'est de la pédagogie que Dieu voudrait utiliser. Le Seigneur Jésus-Christ a utilisé cette même pédagogie en utilisant des paraboles, mais cette fois-ci, ce sont les matériels didactiques que le Seigneur voudrait symboliser pour signifier qu'il veut tout simplement l'unité de son peuple. Nous nous rappelons comment les deux royaumes se sont divisés avec le règne du fils de Salomon. Et par manque de sagesse, bien sûr, mais aussi par la désobéissance de Salomon, les deux royaumes de Juda et d'Israël étaient séparés, divisés, et les deux nations, la façon dont Dieu voudrait utiliser le prophète, c'est pour voir que cette séparation continuait à faire mal à Dieu, pour dire que quand nous sommes désunis, ça ne fait pas l'affaire de Dieu, ça fait l'affaire du camp adverse, mais c'est l'unité qui fait l'affaire de notre Dieu. C'est la leçon que je tire quand il donne ce message au prophète Ézéchiel. Merci.
Merci beaucoup, pasteur Célé. Nous accordons la parole au pasteur José du Canada. Pasteur, vous avez la parole.
Merci, frère, pour la parole. Dans la suite du texte, je pense au verset 17, le Seigneur ordonne au prophète Ézéchiel de rapprocher les pièces en question. Peut-être avant qu'on en arrive là, c'est que dans le verset 16, lorsque il lui dit d'écrire sur chacune des pièces de bois, la première, il dit d'écrire Juda et pour les enfants d'Israël, et sur l'autre, écrire pour Joseph, bois d'Éphraïm, et sa maison aussi. Ce sont les deux noms qui sont retenus ici et qui regroupe l'ensemble de 12 tribus d'Israël. Si nous voyons dans la manière que ou même le rang qu'occupaient ses deux fils, Judas et Joseph. Judas, je pense qu'il est probablement le quatrième enfant dans la naissance. Joseph, il est le onzième. Et ils sont retenus, ici leurs noms, en fait, sont retenus pour regrouper l'ensemble des autres. Par eux, c'est l'unité de la famille au complet qui est représentée. Même s'ils n'ont pas été les aînés, hein, la tradition, les coutumes veulent que ce soit le rôle du fils aîné de rassembler les autres en l'absence des parents. Mais les enfants qui ont fait preuve de sagesse, d'intelligence, de fidélité, d'attachement à Dieu, sont ceux qui sont représentés ici. Le Seigneur m'apprend que si je suis fidèle au poste, je suis fidèle là où il me demande d'être, c'est seulement à cette condition qu'il peut se servir de moi pour des grandes choses comme l'unité qui doit être accompli ici. Probablement que si Ruben avait été sage, intelligent, attaché à Dieu pour faire ce que Dieu lui demande de faire, aujourd'hui, les Israélites auraient pu en tout cas avoir un nom comme Ruben à la place de Judas. Alors, le Seigneur me dit d'être fidèle au poste, faisant ce qu'il me demande de faire, même dans les petites choses, et un jour, il me confiera les grandes. Voilà.
Merci beaucoup, Pasteur José du Canada. Que je sois fidèle aux petites choses, que je demeure à mon poste, l'Éternel, un jour, me confiera des grandes responsabilités. Merci beaucoup, Pasteur. Nous sommes au passage au verset 19. Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Mais voici, je prends les bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, ils seront unis dans ma main. Je vois l'exemple d'Ézéchiel, la douceur avec laquelle il répond aux enfants d'Israël à la question posée ici au verset 18. On pouvait les traiter de fous, mais la signification des bois a son importance. Nous savons que quand Moïse, devant la mer Rouge, pour passer, il a dit utiliser les bâtons qu'il avait à la main pour fendre la mer Rouge. C'est du bois, mais c'est un signe d'autorité, un signe de direction, un signe de gouvernement. Ainsi, en unissant les deux bois, au lieu d'avoir deux royaumes, on va avoir un seul royaume où il y a l'ordre, il y a l'unité et l'entente parfaite. Merci, nous accordons la parole de nouveau au pasteur José du Canada.
Merci encore, frère. Cette fois, je marche dans la suite du pasteur Célé, dans ce qu'il a dit tout à l'heure. Quoi, j'avais annoncé le verset 17, mais aussi le verset 19 dont vous venez de parler. Ils vont dans le même sens aussi avec le verset 22. Au fait, l'unité préoccupe le Seigneur. L'unité, c'est ce qu'il veut voir son peuple vivre, réaliser, accomplir. Dans ces temps de Pâques, nous étions dans une rencontre avec quelques serviteurs où nous devions partager la parole sur les sept paroles de Christ sur la croix. Et beaucoup de nos amis ont parlé de l'unité qui doit nous caractériser, et ils ont avec raison pointé le doigt sur les divisions qui caractérise les églises chrétiennes aujourd'hui. Et dans ce texte, je me dis, l'interpellation que moi, je reçois du Seigneur, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour être, donc pour procéder effectivement à cette unité. Le prophète doit poser un geste d'autorité, comme le frère venait de le dire. C'est un signe prophétique qu'il pose en vue de l'unité. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est ce signe que le Seigneur me donne de poser? Il doit être un signe annonciateur de l'unité. Ça peut être que j'apprenne, évidemment, à diminuer dans l'autorité que je pense avoir sur le groupe sur lequel je suis, afin soit de m'unir avec un autre groupe et accepter d'être, au lieu d'être un pasteur titulaire, que je sois co-pasteur avec un autre. Ça peut aussi être un geste. Nous ne pouvons pas seulement parler d'unité comme cela, mais quel est le geste que le Seigneur me demande de poser en vue de voir son peuple uni? Voilà ce qui m'interpelle.
Merci beaucoup, pasteur José du Canada. Nous accordons la parole à notre bien-aimé Thomas.
Bien-aimé, je suis au verset 18. Parce que Dieu a demandé à Ézéchiel de faire quelque chose, une démonstration avec des matériels didactiques. Et il dit au verset 18 que quand le peuple va dire, mais ne vas-tu pas nous expliquer ce que cela signifie? Alors il dit, Dieu va dire à ce monsieur de dire les paroles du verset 19 pour expliquer ça. Mais je me pose la question, est-ce que je suis sensible à ce que Dieu est en train de faire autour de moi pour m'enseigner quelque chose? Parce qu'on dirait ici qu'en faisant faire ce qu'il a fait faire à Ézéchiel, Dieu s'attend que le peuple en demande l'explication. Il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire autour de moi. Est-ce que je paye attention? Est-ce que je fais attention à cela? Est-ce que j'en cherche l'explication ou bien que je trouve que c'est seulement normal, qu'il y a des signes des temps qui s'accomplissent devant moi? Est-ce que je suis censé? Il y a des gens qui meurent. Est-ce que je me demande s'ils connaissent le Seigneur? Ce que Dieu est en train de faire autour de moi, est-ce que ça attire mon attention pour ce que j'en dépend, que je me dise qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que je dois faire? Ou que je suis tout simplement indifférent en me disant au jour le jour je vis parce que j'ai un travail, je me réveille, je fais ceci, c'est du quotidien. Il n'y a rien de réveil. Mais le réveil, c'est finalement une prise de conscience pour que je sache à quoi Dieu m'a appelé, est-ce que je m'y applique? Parce que le peuple ici devait demander, et Dieu dit, quand ils vont demander, tu vas leur dire ceci. Moi, je demande à Dieu que je sois sensible aux démonstrations qu'il est en train de faire, aux choses autour de ma vie. Peut-être sont des gens qui meurent, peut-être dans les affaires, ceci et cela, pour que cela ait de l'impact dans ma vie spirituelle.
Merci. Merci beaucoup, bien-aimé Thomas. Tout ce qui se passe autour de moi, suis-je sensible? Est-ce que je vois la main de l'Éternel, Dieu des armées? Pas plus qu'hier, j'ai lisé sur Internet un condamné à mort aux États-Unis après 30 ans en prison. On venait de revoir son dossier. Ils se sont rendus compte qu'il était innocent. Mais quand ce monsieur sortit, les premières paroles qu'il a prononcées, je suis en train de prier pour la famille des victimes, cette famille qui souffre, je prie pour que Dieu puisse leur donner la paix. 30 ans de prison. Suis-je conscient de ce qui se passe autour de moi? Quelle est ma part de responsabilité? Pourquoi suis-je à ce moment devant, je suis au téléphone en train de suivre? Est-ce que c'est par formalité ou c'est parce que je sens que Dieu a quelque chose à chaque instant de spécial à me transmettre. Merci beaucoup, frère Thomas. Nous sommes au verset 21. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, mais voici, je prends les Israélites d'entre les nations où ils étaient allés, là où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts. Dieu, notre Dieu, est tout puissant et il est fidèle. Je venais de donner l'exemple de ces prisonniers. Là où il était, son innocence, même si elle n'était pas connue, mais Dieu savait que cette personne était innocente. Et malgré les 30 ans dans les couloirs de la mort, Dieu a agi. Là où je suis, je peux être dans l'impossibilité totale de regagner mon pays d'origine ou de regagner la vie normale. Dieu est capable, comme il a donné le souffle de vie à ses eaux qui étaient desséchées, sans espérance, Dieu est capable de restaurer toute ma vie. Même si je disais, les gens tout autour de moi et moi-même, je disais, c'est impossible, Dieu est capable de mettre la vie là où je croyais que la vie n'a plus sa raison d'être. Nous avons un Dieu merveilleux et il nous donne un message d'espoir et de restauration. Nous donnons la parole au pasteur Célé ou à maman Christine.
Oui, merci encore pour la parole, Papa Gaston. Le verset suivant, le verset 22, l'attention de Dieu est vraiment claire sur les deux nations. Il proclame la parole dans la bouche du prophète que je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations, ne seront plus divisés en deux royaumes. Alors, je suis en train de voir réellement la portée spirituelle de ce message pour que ces deux nations deviennent une seule, un seul royaume. Et plus tard, c'est David qui va être désigné comme roi de ces deux nations. Nous voyons un message, là, prophétique, qui doit son accomplissement que dans notre Seigneur Jésus. C'est lui qui va réellement former un seul royaume. Même les divisions administratives, mais spirituellement, il va réellement former un seul royaume, lui, celui de la descendance de David. Mais aussi, je suis en train de voir comment Dieu, dans toute la Trinité, ils sont unis, Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans la prière sacerdotale en Jean 17, le Seigneur, avant de quitter, il va prononcer les mêmes paroles. Il veut l'unité. Il a prié pour son Église en disant qu'il quitte ce monde, mais je te prie qu'il soit uni comme nous nous sommes unis. Donc l'unité, on suit en fait le modèle de la Trinité. C'est vraiment très fort. Le Seigneur, dans toutes les générations, veut vraiment l'unité de son peuple. Amen.
Merci beaucoup, pasteur. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu veut l'unité de tout son peuple, de toute génération. Nous qui nous disons chrétiens, rachetés de Jésus-Christ, sommes-nous artisans de cette unité dans tout ce que nous faisons et partout nous sommes unité entre nous et unité avec l'Éternel Dieu des armées par notre marche. Merci beaucoup, pasteur. Nous prenons, je suis au verset 23. Je fais, Ils ne se souvieront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par tous leurs crimes. Je les sauverai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils sont péchés, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Dieu prend l'engagement lui-même de purifier son peuple. Il sera notre Dieu pour son honneur, comme nous l'avons vu dans les chapitres 36. Pour son honneur et à cause de son nom, il fera cette purification afin que nous puissions reconnaître que notre Dieu est saint et celui qui opère ces miracles au milieu de nous. C'est souvent très difficile quand je me dis que moi, non, je n'ai pas péché, je suis clean, et je suis normal, je n'ai rien à me reprocher. Quand je regarde la femme de mon prochain, dans la pensée, le fait déjà de regarder cette femme, j'ai commis l'adultère par le pensée, même si la personne, aucune personne me voit, mais Dieu le voit déjà et je me suis écarté de la communion avec Dieu. Quand je regarde la maison de mon voisin, la voiture, ses biens, son travail, et peut-être j'ai une mauvaise idée, j'ai envié, je me suis déjà écarté de la volonté de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu nous vient en aide. Il sait que nous sommes incapables. Il vient faire lui-même la purification au milieu de nous, afin que nous reconnaissions que lui, l'Éternel, Dieu des armées, il est tout puissant, il connaît tout. Dans Apocalypse 2, 23, ainsi toutes les églises reconnaîtront que je connais les pensées et les désirs les plus secrets des hommes. Je donnerai à chacun de vous selon le salaire que méritent ses œuvres. Mais ici, l'Éternel vient nous purifier parce qu'il sait que ses enfants, nous avons besoin de lui et de nous-mêmes. Nous ne pourrons pas nous maintenir dans cette communion-là et dans cette pureté. Merci beaucoup. Je donne la parole au pasteur José des États-Unis.
Oui, merci beaucoup, frère Gaston. Frères et sœurs, je suis encore au verset 22, où le Seigneur parle du rassemblement de son peuple, de la réunification des enfants d'Israël. Bien-aimés, ce verset, nous pouvons dire que depuis 1948, où nous avons l'État d'Israël, le pays n'est pas divisé en royaume du Nord d'un côté et royaume du Sud de l'autre. Aujourd'hui, on parle de l'État d'Israël. C'est que cette parole a trouvé déjà sa réalisation, son accomplissement. Même si il n'y a pas de roi, mais ils ont un président, ils ont un gouvernement, ils ont un parlement, tout est un. La parole de Dieu s'est réalisée, bien-aimé. C'est sur le plan le matériel, c'est ce que nous voyons. Si on va un peu plus loin sur le plan spirituel, oui, c'est ça aussi. Donc, la parole de Dieu s'est réalisée dans le pays Israël. Dieu, ce qu'il a dit, réalise. On attend sa réalisation finale cette fois-là ce n'est pas seulement un seul État, l'État d'Israël, mais ce sera le peuple de Dieu à travers le monde. À travers le monde, quand le Christ viendra. Et nous disons aussi que aujourd'hui, il y a une seule Église à travers le monde dont le Seigneur est Jésus. Même s'il y a des facettes de l'Église, mais l'Église est une. La parole de Dieu s'est réalisée. Merci.
Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. La parole de Dieu est éprouvée et ce qu'elle déclare, c'est ce qui se réalise. Elle se réalise dans toute son intégralité.
Mm-hmm.
Que l'Éternel soit loué. Nous donnons la parole à notre sœur Brigitte.
Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Moi, c'est le verset 23. Il y a une phrase que je retiens dans ce passage-là. C'est le Seigneur dit, je vais vous purifier de tous les lieux où vous avez foulé vos pieds. Je vois combien Dieu est vraiment, le Seigneur est vraiment spécial dans, quand il parle de sainteté, il parle de purification. Combien de fois on s'est retrouvé dans les endroits, ou même dans les églises où on ne confessait pas le vrai Jésus que nous devons suivre. Israël, à un moment donné, s'est retrouvé chez les Madianites, dans beaucoup des Ammonites, beaucoup de peuples. Mais ces gens-là, ces peuples-là avaient leur Dieu. Mais le Seigneur dit, il va purifier même le fait qu'ils ont mis leurs pieds là. Dieu va les purifier, il va purifier leurs pieds, il va les purifier. Ça m'a vraiment touché. C'est ça que je voulais partager. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, ma sœur, de voir encore cette grâce que nous avons d'avoir un tel Dieu qui s'occupe de nous, qui nous purifie, qui prend cette initiative de nous purifier de toute iniquité. Nous sommes passés par des endroits peut-être que où on ne devait pas passer, mais l'Éternel nous a épargnés, nous a fait grâce, nous a purifiés et aujourd'hui, nous avons la vie. C'est une grâce exceptionnelle que nous avons d'avoir un tel papa. Merci beaucoup, ma sœur Brigitte. Nous sommes au verset 24. Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul berger. Je suis interpellé, le pasteur José du Canada venait de partager l'unité, même parmi les enfants de Dieu, les pasteurs, les églises, où je vais être pasteur titulaire. Non, je ne peux pas, cette église-là, moi j'ai beaucoup souffert pour avoir ses membres. On ne veut pas avoir un seul pasteur. Les enfants de ce monde sont vraiment bien habile dans ce qu'ils font. Les grandes sociétés fusionnent. Ils ont un seul PDG. Mais les églises, ils ont la même vision, même confession des foi. Ils sont à 200 mètres l'une de l'autre, mais ils ne veulent pas être ensemble. Non, parce que ces gens-là, ce sont mes brebis. C'est moi qui suis, c'est moi qui ai fait. Et dans nos familles, il y a des divisions. Je ne veux pas accepter l'autre parce que c'est moi qui ai l'initiative, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui suis. Nous manquons ce sens d'humilité et ce sens de réconciliation au milieu de nous. Ici, le Seigneur nous dit que mon serviteur David sera leur roi. Ceux qui dirigeaient les royaumes du Nord, ceux qui dirigeaient les Juda. Le Seigneur dit, mon serviteur David sera leur roi. Donc, ils acceptent qu'ils soient dirigés par un roi, un nouveau roi. Et ils reconnaissent en lui toute l'autorité. Mm-hmm. Suis-je prêt lorsque je suis responsable des commissions? On dit, frère, nous voulons pour redynamiser des activités, que telles fait prennent ta place. Comment je réagis à cela? C'est à ce moment-là que je commence à voir les erreurs de la sœur. Quand elle était mon adjointe, je l'appréciais. Quand elle devient titulaire, je commence maintenant à voir ses erreurs. Acceptons que nous soyons dirigés par celui que l'Éternel a jugé de nous conduire pour sa gloire, dans l'unité, dans l'amour et dans la réconciliation totale. Nous continuons. Nous prenons les... Oui, je donne la parole. Je voulais aborder les versets 25. Je donne la parole au pasteur José du Canada. Oui, pasteur, vous avez la parole.
Merci encore, frère. Je vais sauter au verset 26 parce que il traduit, à mon sens, le fait que le prophète transcende la réalité du moment pour voir la vérité à venir. En termes de temps, en termes historiques, c'est vraiment quelque chose que nous vivons à partir de Christ, même jusqu'à aujourd'hui, que le prophète voyait, parce que il va dire au peuple, de la part de l'Éternel, que l'Éternel veut traiter avec les Israélites une alliance de paix, une alliance éternelle. En termes d'alliance, on sait que lorsque le Seigneur a établi, a effectué son sacrifice, bien avant, à la veille de le faire, le jeudi saint, lorsqu'il partageait, il instituait la Sainte Cène, il leur parle d'une nouvelle alliance, une alliance éternelle, une alliance en son sang, une alliance nouvelle et éternelle. Et le prophète utilise, avait bien longtemps avant, des siècles avant, dans ce texte, au verset 26, il établit, il parle du désir de Dieu de traiter avec son peuple une alliance éternelle. Et lorsque le Seigneur va ajoute encore le fait que je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Nous savons ce que nous vivons dans la nouvelle alliance. Le Seigneur a dit que l'Esprit de Dieu demeure éternellement avec nous. Et le Seigneur a dit que nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite à nous. Donc la demeure de Dieu est à nous. D'abord, individuellement, nous constituons chacun pour sa part le temple de Dieu. Mais collectivement, nous sommes aussi l'édifice spirituel, la maison de Dieu. C'est vraiment une réalité, comme le pasteur José l'a dit tout à l'heure, qui s'est accomplie parce que nous vivons cette réalité. Et c'est pour cela, de la vérité spirituelle, passons à cette facette visible de cette vérité en nous unissant les uns aux autres, en travaillant, comme le frère venait de dire tout à l'heure, ça n'a pas de sens que nous ayons une même confession de foi, nous ayons une même vision, nous utilisions le même document pour pouvoir servir le Seigneur, et cependant, nous restons encore divisés, éloignés les uns des autres, présentant au fait une image calamiteuse de l'Église du Seigneur, de ce que le Seigneur veut établir et bâtir au milieu de nous. Voilà.
Merci beaucoup, pasteur José du Canada. Nous sommes interpellés. Est-ce que je suis conscient que mon corps est le temple du Seigneur? Et comme nous sommes unis, l'Éternel est au milieu de nous. Et cette alliance est éternelle. Quand je suis en trouble, quand j'ai des problèmes, est-ce que je réalise qui je suis? Je suis le temple du Seigneur. L'Éternel a établi sa demeure en moi. Quand je fais ce que je fais, est-ce que je réalise qui je suis? Notre sœur a partagé et elle était édifiée de voir comment l'Éternel prend l'initiative de nous purifier. Pourquoi il a fait? Et lorsque je suis seul, je réalise qui je suis, que représente mon corps. Merci beaucoup, pasteur José du Canada. Nous donnons la parole au pasteur José des États-Unis.
Oui, merci beaucoup, frère Gaston, encore une fois. Je suis au verset 26, je prends seulement le verbe s'engager en parlant de Dieu. Je m'engagerai à vous assurer une paix définitive. C'est très important, bien-aimé, lorsque Dieu s'engage, accepte, décide de s'engager à nous assurer une paix profonde. On voit ici la décision de Dieu de voir ses enfants réunis, pacifiés. Il ne veut plus la division, plus de guerre, il veut la paix. Et Dieu s'engage, il s'engage. Bien-aimé, on voit combien Dieu voit son peuple avec un œil très positif. Il voit son peuple, comme la parole dit, comme quelque chose de très important. Très important aux yeux de Dieu. Par conséquent, il s'engage à assurer sa paix. Et cette paix, ce n'est pas une paix temporaire, une paix momentanée, mais c'est une paix définitive. Oui, bien-aimé, il y a une paix définitive lorsque nous acceptons l'amour de Dieu. Nous acceptons ce qu'il a fait. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus, nous avons déjà vu, nous faisons la paix avec lui, avec ce Dieu-là. Et là, la paix de Dieu entre d'une façon définitive dans notre cœur. Ça ne peut pas changer à un moment donné, parce que Christ est mort. Nous avons vu et il est ressuscité. Nous commémorons aujourd'hui. Voilà, bien-aimés, comment Dieu nous aime. Il s'engage à assurer une paix définitive. Et nous avons déjà cette paix. Mais cette paix, nous devons la cultiver en cherchant à vivre en paix avec notre frère, avec notre sœur, avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, avec des frères et sœurs, humains, que sais-je encore. Voilà une interpellation, parce que nous sommes le peuple aimé, le peuple de Dieu. Merci.
Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. Nous sommes le peuple aimé, le peuple de Dieu. Je donne la parole à notre frère. J'avais vu le frère Grégoire.
Oui, merci. Merci, pasteur, pour la parole. Je vais compléter le pasteur José pour dire que le Seigneur donne la paix que le monde ne peut jamais donner. c'est pourquoi nous devons privilégier notre communion avec Dieu, car notre alliance avec Dieu est éternelle. Oui, c'est pourquoi c'est ce que je voulais dire, parce que le pasteur Joseph a tout dit, c'est ce que je voulais compléter. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, bien-aimé Grégoire. Que l'Éternel soit loué. Nous allons accorder la parole au pasteur. J'avais vu le pasteur Célé ou Maman Christine, et il sera la dernière personne.
Oui, merci encore pour la parole, Papa Gaston. C'est les deux derniers versets qui nous montrent cette alliance éternelle qui est accomplie. Alors, je me demande, quand ce message a été donné, si le peuple de Dieu, en ces temps-là, pouvait comprendre la portée de ce message. Aujourd'hui, nous le comprenons, c'est un message qui était donné au futur. Mais ce peuple est toujours en déportation. Alors, je me dis, est-ce que dans leur génération ont-ils vécu l'accomplissement de ce message comme nous le vivons aujourd'hui? Nous avons une alliance éternelle avec Jésus-Christ. Nous avons son sanctuaire parmi nous. Il vit en nous pour toujours dès que nous l'acceptons. Il dit, vous serez mon peuple, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et aujourd'hui, nous nous déclarons, nous ne sommes pas d'origine juive, mais nous nous déclarons peuple de Dieu. Donc tout ceci, c'est l'accomplissement de cette prophétie, qui s'est accomplie avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai, c'est comme il disait au verset 24, que c'est mon serviteur David qui sera le roi. Et c'est dans la lignée de David que nous avons Jésus-Christ qui a réellement, dans lequel nous trouvons l'accomplissement total de cette prophétie. Et nous disons que réellement la parole de Dieu, la fidélité de Dieu est vraiment réel. Et nous sommes vraiment en témoin de la fidélité et de l'accomplissement de cette prophétie qui s'est accomplie depuis la Nouvelle Alliance, l'arrivée de la Nouvelle Alliance, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur Célé. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes dans les vrais. Les prophéties dites se concrétisent telles qu'elles ont été prononcées. Et l'Éternel est au contrôle de toutes choses. Nous glorifions l'Éternel Dieu des armées. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre programme. Nous allons lire les commentaires du jour de notre bien-aimé Serge Patrick Ténékou du Cameroun avec notre sœur Sédiv. Et après cela, je donnerai la parole au pasteur pour les annonces et le pasteur José du Canada terminera par la prière. Et nous avons reçu une nouvelle douloureuse, c'est de notre sœur Marie Tikena qui a perdu son grand frère au pays. Nous lui présentons nos profonde condoléance et puis le pasteur José du Canada va prier pour que l'Éternel puisse fortifier notre sœur et nous recommander à la grâce du Seigneur. Mais maintenant, je donne la parole pour la lecture du passage des commentaires d'aujourd'hui.
Réunification. C'est l'unité, c'est le caractère qui est un. Unique, c'est qui forme un tout. Le projet de Dieu pour son peuple n'était pas seulement de lui redonner vie, mais aussi de le réunifier. Son peuple était scindé en royaumes, et la division n'est pas de Dieu. L'acte symbolique. Dieu demande à Ézéchiel de prendre deux pièces de bois, d'écrire dessus et de les rapprocher. Les deux pièces de bois symbolisant les royaumes du sud, Juda, et du nord, Joseph, qui redeviennent une seule pièce. signe d'unité de la nation d'Israélite. Face aux querelles et divisions qui minent nos églises, familles, pays, utilisons l'évangile de paix pour créer ou recréer l'unité spirituelle et sociale. Voir 2 Corinthiens 5, 19 à 21. Unis entre eux et unis à Dieu. Le retour au pays de deux des royaumes, leur harmonie sous un roi unique, la purification de leurs péchés sont autant des signes de la réunification. Étant unis, ils se sont en vérité le peuple de Dieu et Dieu au milieu d'eux. Derrière la réunification du peuple d'Israël sous un règne nouveau et un territoire géographique, le Seigneur annonce le rassemblement de tous les croyants dans le royaume à venir de Christ. Le grand David, le prince de la paix, dans la nouvelle Jérusalem. À méditer. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9.
Merci, sœur Cédive. Pasteur Célé, vous avez la parole pour les annonces et surtout les camps bibliques qui s'annoncent.
Merci, Papa Gaston. D'abord, saluer les frères et sœurs qui sont aux États-Unis en train de méditer avec nous et aussi en Alberta. Et aussi le camp biblique qui s'annonce pour ceux qui ont l'écran de Colorado Flower. Voit toujours, nous plaçons la bannière. Avec comme thème Jésus-Christ est Seigneur et libérateur encore aujourd'hui, un thème qui a été beaucoup déformé par l'Église aujourd'hui en utilisant mal la libération, mais dans l'enseignement, dans ce camp biblique, nous serons vraiment fortifiés avec ce pasteur Luc Lukusa de Belgique. Et plusieurs se préparent à être là. Mais nous donnons cette annonce juste pour encourager tous les frères et sœurs pour que nous sentions unis. Et la façon de nous sentir unis, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons aider ces camps bibliques à se tenir par nos dons, par nos prières, par les flyers ont été envoyés à plusieurs d'entre nous. Il y en a qui utilisent le Facebook. Vous pouvez placer ça avec vous. Vous pouvez envoyer à tous vos contacts. Moi, j'ai envoyé à presque tous mes contacts, surtout tous les amis qui sont en Europe. Ils sont informés de ce camp. Mais est-ce que vous avez aussi des amis en Europe? Vous pouvez leur envoyer le flyer et les inviter, pourquoi pas, à ces camps. Voilà quelques annonces, Papa Gaston, merci.
Merci beaucoup, Pasteur Célé, pour les annonces. Pasteur José du Canada, vous avez à vous la parole et surtout pour notre sœur Marie Tchikena.
Notre Dieu, merci pour nous avoir parlé de l'unité et du rapprochement des uns et des autres en vue de former une communauté nouvelle, unie, tricotée, serrée, Seigneur, les uns contre les autres, pour toi, pour ta gloire. Nous te bénissons, Père, pour l'œuvre que tu as commencé déjà de faire, l'œuvre que tu parfais jour après jour, en appelant des hommes et des femmes de partout dans le monde, de toute origine ethnique, de toute couleur de peau, de tout niveau socio-économique, tu nous rassembles sous ta bannière, faisant de nous, Seigneur, un peuple qui t'appartient, un peuple choisi, un peuple avec lequel tu as traité cette alliance éternelle par ton œuvre, par la croix. Seigneur, nous te bénissons pour la résurrection dans laquelle, Seigneur, nous trouvons un sens à notre foi. Nous te bénissons, Père, d'avoir vivifié ce que nous croyons, d'avoir rendu vrai, réel, notre union à toi.
Seigneur, dans cette union, tu nous dis de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est dans ce sens, Père, que nous voulons nous joindre à notre sœur Marie Chikena, que nous te recommandons, Seigneur, avec toute sa famille, pour la perte d'un frère, un être cher. Nous demandons, Père, que tu la visites, que tu la fortifies, et au travers elle, Seigneur, tous ceux, toutes celles, Seigneur, qui directement ou indirectement sont concernées par ce décès, nous te le réclamons, nous te le confions, nous te le présentons. Nous demandons, Seigneur, qu'il soit l'objet de ton attention, de ton esprit, l'esprit de réconfort, l'esprit de soutien, l'esprit de consolation, l'esprit de paix, opère et travaille, Seigneur, en eux. Nous nous adressons à toi, notre Dieu, toi qui as connu la douleur de la séparation. Seigneur, ta parole nous dit que lorsque un de tes amis était mort, lorsque tu as visité Marthe et Marie, alors qu'ils avaient perdu leur frère Lazare, Seigneur, la parole nous dit que tu fus ému de compassion, tu as été transporté, Seigneur, par l'émotion au point, ô Dieu, que tu as pleuré. Toi qui as pleuré pour un ami, tu comprends parfaitement bien, Seigneur, lorsque l'un de nous pleure un frère. C'est pour cela, Seigneur, nous te confions notre sœur. Merci de la visiter et la consoler, toute sa famille avec elle, Seigneur. Merci d'être avec elle comme tu fus avec Marthe et Marie dans leur désarroi, dans leur douleur, dans leur souffrance. Relève-les, Seigneur, fortifie-les, encourage-les. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le même et tu n'as pas changé. Tu vas le faire parce que nous te le demandons, notre Dieu. Oui, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Que ta grâce continue de nous animer, Seigneur. Que ta grâce par laquelle, Seigneur, tu as choisi, tu as décidé, tu t'es engagé, comme nous l'avons entendu, de traiter une alliance avec nous. Que par elle, Seigneur, l'œuvre de purification par ton esprit continue encore d'être aussi profonde, ô Dieu, dans le cœur de chacun de nous, afin que nous soyons un peuple totalement dédié, dévoué, un peuple qui est pour toi et qui vit pour toi. Que ta grâce nous accompagne, Seigneur, alors que nous serons séparés les uns des autres pour quelques heures, jusqu'à ce que nous nous retrouvions encore demain, Seigneur, dans la méditation. Demeure avec nous, garde-nous et protège-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur José du Canada, pour la prière. Bien-aimé, le passage de demain, c'est dans les psaumes 40, versets 1 à 18, avec la question 2 et la question 7. Bonsoir à tous et une fois de plus, joyeuse Pâques. Amen.
Amen.